J'aimerais ouvrir avec vous le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 64, verset 1er. Voilà. Le thème de mon message, je vous le donne ce soir, le titre, c'est « Quand le Seigneur vient au-devant de nous ». C'est important de savoir que Dieu, eh bien, fait une démarche vis-à-vis de nous. Amen. Alors, Ésaïe 64, verset 1er. Ça démarre comme ça, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Peut-être c'est confus au départ, mais vous verrez en conclusion du message que tout d'un coup s'éclaire. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Et tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert. Jérusalem, une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Amen. Au verset 4, il est dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. C'est une note positive. Amen. C'est vrai que la lecture paraît même, effectivement, elle est négative. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque le prophète Ésaïe a prononcé ces paroles, il passait par de graves difficultés. Il arrivait à la fin de sa vie, il était quelque part là, usé par le combat spirituel. De plus, eh bien, il assistait, impuissant, à ce que j'appelle la dégradation morale de Juda, conduit par et encouragé par Manassé. C'était un roi impie, malheureusement. Il était eh bien, à l'opposé de son père. Ézéchias, donc son père, a commencé lui à faire des réformes pour amener Juda justement à l'obéissance à Dieu. Mais lui, Manassé, va élever des sanctuaires païens sur les hauts lieux. Il va bâtir un autel à Baal. Et dans les deux parvis du temple, eh bien, il va élever des autels dédiés au culte des astres. Il faut savoir qu'il va même faire passer un de ses fils par le feu. Eh oui, c'était profond. Hein, le prophète, donc Ésaïe, avait exercé son ministère pendant, écoutez bien, près de 60 ans. C'est beaucoup, hein? C'est usant. Alors, après avoir survécu à plusieurs rois, hein, le roi Ozias, Jotham, Akaz, Ézéchias, pardon, voilà que maintenant, il vit du temps de Manassé et il vit maintenant sous la menace. Il y a des orgies de péché, il ne supporte pas les avertissements du prophète. Donc, comme on dit, la moutarde monte au nez. Hein, et Manassé, eh bien, on est au point où justement, il veut faire disparaître eh bien, Ésaïe. Alors, c'était au point que, selon la tradition juive, Manassé va le faire ligoter dans un arbre creux pour ensuite être scié en deux. Le texte d'Hébreux 11, verset 37, pardon, pourrait faire allusion à ce martyr, je le lis. Certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Ou bien ils allaient d'un endroit à l'autre vêtus de peau de mouton ou de chèvre, pauvres, persécutés, maltraités. Ouf. Les hommes qui ont servi Dieu qui finissent comme cela. Eh oui. En tout cas, dans sa détresse, Isaïe fait de l'Éternel son confident. Il a raison. Croyez pas ? Faites de l'Éternel votre confident. Évitez de vous épancher sur l'épaule d'un autre, parce que vous allez peut-être même l'accabler encore plus que ce qu'il n'est, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur de votre ami, de votre frère ou de votre sœur. Eh oui, le seul qui peut nous aider, c'est justement l'Éternel. Donc, Isaïe, il fait de l'Éternel son confident. D'ailleurs, durant toute sa carrière, il avait été sensible à l'amour et aux compassions de l'Éternel. Amen. Il savait que s'il était encore là, debout, après tout ce qu'il avait vécu, eh bien, c'était grâce à Dieu. Mais le voici, soudain, désemparé. Il l'exprime par des mots qui ne laissent aucun doute. Ésaïe, chapitre 63, verset 15, il dit « Je regarde du ciel, et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance ? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. » C'est vrai que quand on a vécu un temps d'intimité très fort avec Dieu, quand on a vécu comme cela des temps et des moments particuliers, vivre dans et sous une menace permanente, vivre, je dirais, dans un état où l'on voit que on a parlé mais rien ne s'est produit, ou quelque part on a même fait le contraire de ce qui avait été annoncé, prophétisé, ça devient difficile, ça devient lourd. Alors lui semble que son Seigneur également a cessé de lui parler. Il lui semble maintenant que son cœur est vide, il est découragé. Et voilà que Isaïe énumère des éléments négatifs qui, je dirais, caractérisent ce temps d'apostasie nationale. Isaïe 63, verset 18, il dit « Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. » Vous vous rendez compte ? Eh oui. Une possession perdue, un temple profané, un peuple qui se soustrait au gouvernement de Dieu. Autant de causes d'affliction pour cet homme de Dieu qui ne supporte plus l'impiété. Et ses compatriotes lui tournent le dos à Dieu, à tout l'enseignement qu'ils avaient pu recevoir. Et ils ne se souviennent plus de ce que Dieu a fait pour eux. Puis il y a la déchéance qui est là de plus en plus grande. Même les chefs, ils s'y mettent. Alors Isaïe est dans une situation particulière. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Amen. Il fait plus, il va supplier l'Éternel. Parce qu'il est convaincu que Dieu l'entendra. Amen. Pour lui, c'est sa seule ressource. C'est son dernier espoir. Dieu seul dispose des solutions valables pour résoudre tous ces problèmes qui sont devant ses yeux, qui s'étalent devant lui. Alors il dit au verset 19 d'Ésaïe 63, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Amen. Vous voyez, il y a cette prière qui est là. Oh, si tu déchirais les cieux, Éternel, si tu descendais, si tu venais jusqu'à nous, il se passerait des choses. Amen. Il est aussi, je dirais, dans nos vies, des situations où nous ne pouvons recourir finalement qu'au Seigneur. Nous en sommes conscients. Personne n'a la solution. La situation est là. Je vis un drame. C'est terrible. Mais je sais que toi seul, tu es capable de déchirer les cieux et de descendre vers moi pour apporter la solution, pour venir me relever, me guérir, que sais-je encore, me délivrer de l'ennemi, de l'adversaire. Toi seul peux le faire, Seigneur. Soyez conscients de cela. c'était pas que pour Ésaïe. C'est pour nous aujourd'hui. Pour nous qui sommes là ce soir. Amen. En tant que membres du corps de Christ, je dirais que nous sommes liés les uns aux autres par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons un dénominateur commun, le Seigneur, l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que nous avons des responsabilités les uns vis-à-vis de l'autre. Amen. Eh oui. Nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Vous pensez à votre frère, à votre sœur. C'est important de penser les uns aux autres et de prier. Parce que si nous nous désintéressons du sort de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Ou si nous nous désolidarisons, qu'est-ce qui va se passer? Il y a là une cause commune, il y a là un combat à mener ensemble. Eh bien, si nous sombrons, ne serait-ce que dans la passivité ou la résignation ou le découragement, eh bien, nous favorisons l'emprise de l'adversaire sur nos vies, sur notre état d'esprit. Amen. Ne donnons aucun droit à l'ennemi. Amen. L'Éternel est vivant. Alléluia. Le Seigneur que j'aime, parce qu'il faut lui dire, il faut qu'il sache qu'on aime le Seigneur. Hein. Lui, il est le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Un jour, mon fils avait fait une expérience de guérison. Il avait prié tout seul. Moi, j'avais fait l'infirmier. Mais lui, il a prié tout seul dans la nuit. Il a été guéri. Son genou était redevenu à la normale. Le traumatisme qui était là n'y était plus. La température qu'il y a sur un membre qui est traumatisé reste quelque temps. Eh bien, en une nuit, donc au petit matin, quand je le retrouve à l'infirmerie, il me dit, non, c'est moi qui lui dis, mais tu as dû bouger cette nuit parce que ta bande est totalement desserrée. Et il me dit, non, j'ai prié le Seigneur parce que je voulais retourner avec mes collègues dans la journée. Et il avait raison de prier. Amen. Mais à la fin du camp, c'était un camp de ski, le dernier jour, dernier culte, alors qu'il avait rendu témoignage, eh bien, tout d'un coup, il vient me voir, il me dit, papa, j'ai mal au genou. Alors je lui ai dit, tu sais, tu vas faire une chose. Il a fait son expérience tout seul de guérison. J'ai dit, tu vas faire une chose. Tu vas aller te mettre dans un petit coin tranquille et tu vas dire à celui qui te dit que tu as mal que tu ne le crois pas parce que Dieu t'a guéri. C'est ce qu'il a fait. C'est d'enfant, hein? Mais combien c'est beau, les enfants, la simplicité d'un gosse, hein? Amen. Il est revenu, il me dit, j'ai plus rien. Notre gosse, il n'a jamais passé de radio ni quoi que ce soit. Il n'a jamais été plâtré ni rien. Il a fait après du basket, il a été champion d'aveyron. Et oui. Et il a fait du sport toute sa vie, il en fait encore. Hein. Amen. Alors c'est vrai, ne laissons aucun droit à l'adversaire. Nous appartenons au Seigneur. Si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur, ami, vite, tourne-toi vers lui. Il faut que tu le rencontres, il faut que tu fasses une expérience avec lui, tout simplement, de conversion, pour recevoir le pardon de tes péchés, pour pouvoir avoir cette vie nouvelle qui t'amène justement à espérer contre toute espérance, comme l'a fait Abraham. Amen. Alors par ailleurs, le fait de blâmer ce qui nous entoure, ça n'exclut pas, je dirais, le véritable règlement de nos problèmes. Est-ce que vous êtes parfait? Moi, je ne suis pas parfait. Je connaissais quelqu'un qui s'appelait Parfait, mais il n'était pas parfait. Ça, je peux vous le dire. Je l'ai côtoyé de près, je sais qu'il n'était pas parfait. Le seul parfait, c'est le Seigneur. Le seul à qui nous devons adresser aucun reproche, c'est lui. Amen. Mais il nous demande de prendre soin les uns des autres, de prier les uns pour les autres. Alors au lieu de blâmer, peut-être, au lieu de faire des reproches, prions. Prions parce que c'est lui qui met dans le cœur de l'homme eh bien, sa vie, ses sentiments. Amen. Alors plutôt que de nous contenter, par exemple, de certaines ressources humaines ou tout simplement d'abandonner la lutte, évoquons comme Ésaïe, voyons plutôt comme Ésaïe, un regard de foi. Amen. Au-dessus des circonstances qui sont là, bien sûr, elles sont écrasantes, elles sont pénibles. Supplions l'Éternel. Alléluia. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. Les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ce qui est éternel, finalement, pourrait bouger. Et les montagnes, c'est immuable. Eh bien, ça peut changer. Alors, dans la plupart des traductions, cette dernière phrase du chapitre 63, hein, vous devez le voir sur vos bibles si vous avez vos bibles ouvertes, « Les montagnes s'ébranleraient devant toi, virgule. » Dans la plupart des traductions, ça se termine par cette virgule. Tiens. Vous savez, il n'y a rien d'anodin dans la parole de Dieu. Et là, moi, qu'est-ce que j'y vois? Eh bien, c'est que sans transition, eh bien, il semble qu'un nouveau chapitre s'est alors ouvert, tout simplement, dans la vie du prophète. Quelque chose de nouveau est venu. Alors qu'il est dans une situation difficile, où il le montre, il le présente, il le dit, hein, puisqu'il ouvre son cœur, il n'y a rien qui va, Seigneur, rien ne marche, c'est terrible, je ne supporte plus. Voilà qu'il y a comme un éclat de lumière. La lumière divine qui descend, qui vient illuminer son esprit. Voilà que sa plainte fait place à un cantique. Il réaffirme sa foi en celui qui peut aplanir les montagnes. Et désormais, pour lui, l'impossible devient possible. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Écoutez bien, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Vous voyez, en introduction, j'avais lu à partir de là. Voyez, si tu déchires les cieux, Seigneur, tout redevient possible. Et tes ennemis peuvent reconnaître qui tu es. Avoir de la crainte vis-à-vis de ton peuple. Les nations trembleraient devant toi. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Amen. Alors, avant que les nations et les chefs d'État se mettent à trembler, devant le Fils de Dieu, comme le psaume 2 le prophétise, et vous le lirez chez vous, notre adversaire, lui, il tremble. Vous savez quand? Quand justement les chrétiens s'unissent dans la prière, dans le témoignage, dans l'intercession, pour ordonner l'adversaire de reculer. Amen. De libérer des captifs. Ésaïe 64, verset 2. « Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Le Seigneur est capable de faire de grandes choses ce soir. Amen. Il est capable de faire des choses magnifiques, extraordinaires, fabuleuses. Il dit, on n'attendait même pas de prodige. Mais toi, tu t'es manifesté. Et quand Dieu descend et qu'il se manifeste, il se passe des choses glorieuses. Alléluia. Alors peut-être que notre mentalité cartésienne, les vents contraires, l'abondance de difficultés, eh bien, nous empêche justement de croire vraiment aux miracles et de les voir. Amen. C'est dommage. Cependant, le Seigneur, lui, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt à accomplir des prodiges parmi nous. Il est prêt à opérer des guérisons, à faire des miracles. Amen. Seulement, il y a un si. Si nous, eh bien, nous savons nous humilier, être vrais devant lui. Et si nous savions prier comme si tout dépendait de notre prière, vous comprenez? C'est ma prière, ma supplication, c'est ce qui va changer la situation. Croire également comme si tout dépendait du Seigneur, je crois que tout changerait. Amen. Tu pries, mon frère, ma sœur, ça a du poids devant Dieu. Ça a du poids face à l'adversaire. Ton intercession, elle est très importante. Je vous raconte ce témoignage. Ce n'était pas prévu, je vous le raconte quand même. C'est deux sœurs qui étaient en mission en Afrique. Puis elles visitaient les villages. elles apportaient des soins. Et puis, elles se sont trop attardées dans une tribu. Et elles savaient qu'elles n'auraient pas le temps de rentrer justement à la station missionnaire. Alors, elles avaient confiance en Dieu, elles se sont mises sous un arbre, elles ont préparé leur petit feu pour faire cuire quelque chose, puisqu'elles avaient dans leur sac bien des denrées. Et puis, elles ont dit, Seigneur, écoute, tu veilles sur nous. Ce qu'elles ignoraient, c'est que les jeunes du village, deux jeunes filles magnifiques, c'était des proies faciles. Donc, ils avaient décidé de les suivre, parce qu'ils savaient qu'elles n'iraient pas jusqu'au bout. C'était impossible. Et qu'ensuite, ils allaient leur tomber dessus et faire ce qu'ils avaient envie de faire. Mais elles ont prié. Elles ont prié. Demandé au Seigneur de veiller sur eux. La semaine suivante, elles sont retournées dans leur tournée pour les soins, dans ce fameux village. Et là, les jeunes du village les ont vus arriver. Ils se sont mis sur le côté et ils ont dit, où est-ce qu'ils sont ? Alors les jeunes filles ont dit, mais qui ? Où sont les guerriers qui étaient avec vous la semaine dernière ? On a dit, mais il n'y avait pas de guerrier avec nous la semaine dernière. Et c'est là qu'ils ont dit, voilà ce qu'on avait décidé de faire. Et puis on s'est approché du camp. Il y avait des guerriers qui vous gardaient. Le camp était gardé par des guerriers. On les a vus, ils étaient armés. Mais ce qui est fort, et encore plus fort que ça, c'est que le pasteur, le missionnaire, faisait une tournée dans les Pyrénées, dans la région Aquitaine. Et puis, il donne ce témoignage de ces braves sœurs qui ont été gardées dans la brousse parce que l'Éternel a envoyé des anges pour les garder, etc. Et là, il y a eu un silence dans la salle. Et puis, le pasteur s'est levé. Il a dit, mais à quelle époque ? Il donne l'époque. Et ce soir-là, il y avait la réunion de prière dans cette ville. Et le Seigneur leur a montré deux de ses enfants qui étaient en danger. Et toute l'Église a intercédé. Au moment où ces filles dans la brousse étaient en danger de mort, parce que ça ne se serait pas fini comme ça, eh bien le Seigneur a mis sur le cœur de ses enfants, dans cette réunion de prière, de prier. Vous voyez comme quoi ? Nous on dit, oh, une prière, oui, mais si, ça a de l'importance. Amen. Dieu est prêt à agir, à se manifester, à accomplir des prodiges et des miracles si nous, nous sommes capables de prier avec foi, de demander à Dieu tout simplement de faire son œuvre. Ésaïe continue en disant, en souvenir du passé, au verset 3, Ésaïe 64, « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Et puis, il y a comme un sursaut de foi et je dirais mêlé de bonheur. Là, il parlait d'extase, mais pour avoir d'extase avec Dieu. Amen. Au verset 4, il dit, « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. » Et c'est vrai que lorsque le Seigneur trouve en nous, allez, comme j'ai dit tout à l'heure, un esprit d'humiliation, de repentir et de supplication, Dieu intervient. Amen. D'ailleurs, il nous précède sur la route. Il doit marcher devant nous. Amen. Quelquefois, il a besoin de nous ranimer au niveau de la foi. Eh bien, il va le faire aussi. Il est celui qui nous restaure. Il est celui qui nous rassure quand nous avons besoin d'être rassurés. Amen. Et c'est vrai que souvent, c'est nécessaire qu'il fasse comme cela. Il faut le reconnaître. Comme Ésaïe le fait. Nous sommes tous flétris comme une feuille, il n'y a personne qui se réveille pour s'attacher à toi, puis laissons-le agir. Nous sommes l'argile, je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit dimanche, mais nous sommes l'argile. C'est toi, ô Dieu, qui nous a façonnés, c'est toi qui nous a formés. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ta main qui l'a fait. Amen. Et là, eh bien, nous retrouvons notre privilège, notre position privilégiée, elle est là. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Amen. Nous sommes tous ton peuple. Alléluia. Puis enfin, supplions-le avec ferveur. Ésaïe 63, verset 19, j'y reviens. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et en cet instant, eh bien oui, que l'on soit un jeune homme, une jeune fille, un couple, un senior, un nouveau converti, un chrétien expérimenté, qui va faire cette prière? Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, je sais qu'il se passerait des choses. Je sais qu'il y aurait un bouleversement extraordinaire. En cet instant, il faut quelque part s'attacher à cela et dire cette prière, je la fais mienne, Seigneur. Je veux qu'elle devienne comme un soupir quotidien, qu'elle soit comme une imploration, amen, pour moi personnellement, mais également collective pour l'Église. Et qu'il plaise au Seigneur de déchirer les cieux, alléluia. Mais qu'il plaise au Seigneur de descendre sur chacune de nos vies. Vous avez vu, quand de la gloire descend, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on devient? Des poids lourds. Amen. Même si on est frêle, on devient des poids lourds. On devient redoutable. Redoutable pour l'adversaire, pour l'ennemi. Amen. En tout cas, un jour, c'est sûr, il déchirera les cieux. Il descendra pour prendre son Église, pour l'avoir toujours avec lui. Et ça, c'est notre suprême espérance. Amen. Quoi que vous disiez, parce qu'on doit vous le dire, hein, depuis le temps que vous dites que Jésus revient, il n'est pas encore là. Hein. Ouais, mais il est le venant. C'est la traduction littérale. Il est le venant, c'est-à-dire qu'il est en train de venir. Amen. Eh bien, en attendant, croyons que le Seigneur est capable, lui, d'ouvrir les cieux, de descendre pour nous bénir et pour nous rendre tout simplement sa bénédiction. Alléluia. Pour nous rendre en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui nous entourent, pour cette région. Vous ne voulez pas être des instruments utiles de bénédiction pour le Seigneur? On va se lever ensemble et on va prier, on va invoquer le Seigneur. Levons-nous, vous êtes fatigués? À moins que vous soyez à l'extrême, hein? Alors j'ai des prières pour vous, hein? Amen. Gloire à Dieu. Sommes devant toi, Seigneur. Savons que tu entends les cris, même les cris sourds du cœur, de l'âme, de l'esprit. Mais ce soir, nous ne sommes pas venus pour rester muets, silencieux. Nous sommes venus pour t'invoquer, Seigneur, pour te demander de te glorifier, de te manifester. Seigneur, il y a des besoins dans notre famille, il y a des besoins auprès de nos amis, de nos collègues de travail. Il y a des besoins, Seigneur, dans ce quartier, dans cette ville. Il y a des besoins, Seigneur, et nous voulons tout simplement prier, te demander grâce. Sauve, Seigneur, parmi ceux qui sont les plus réfractaires. Arrête-les, Seigneur, amène-les tout simplement devant cette réalité. Tu es vivant. Alors je veux te demander grâce, grâce, grâce pour mon voisin, même s'il est pénible. Je veux te demander grâce, grâce pour mon collègue de travail, même s'il a été injuste envers moi. Je veux te demander grâce pour ma famille, même s'ils m'ont traité comme des moins que rien parce que je suis devenu enfant de Dieu. Alors je veux te demander grâce pour eux. Je veux te demander, Seigneur, d'agir et d'intervenir, de souffler, Seigneur, d'envoyer ton vent céleste et d'amener des hommes et des femmes, Seigneur, à la conversion. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur, leurs pratiques. Pardonne-leur, Seigneur, tout simplement leurs propos. Fais le miracle. Alléluia. Priez. Amen. Demandez au Seigneur sa grâce.